Bienvenue à cette émission Best-of d'août 2020. Cette année aura deux best-of car nos adhérents ont besoin de se reposer après la quarantaine. Nous allons commencer par le quatrième épisode d'Au fil des confins, suivi d'une interview de Rodolphe Orville. Ensuite, on aura un intermède musical par Ludovic, l'interview Monty Picon par Vincent, puis Histoire d'une vie, personnes exclues, de Philippe Charc. Pour ceux qui n'ont pas la version libre de droit, on aura aussi la meilleure rubrique de Clemente, en tout cas selon lui, celle sur Chan Chan du Buena Vista Social Club. Puis on finira avec une interview d'un président d'une association de chiens aveugles par Vincent, une musique d'Olivier Serra, Monolith si on la retrouve, et le Néophile Homo épisode 24 par Alban. Bonne écoute!
Au fil des confins, quand le téléphone portable devient micro, témoignage de confiné, une production micro-sillon.
Au fil des confins 4, les rêves. Avez-vous noté une différence avec ceux d'avant le confinement? Déjà, je crois que vu que je dors beaucoup moins, je dois en avoir autant de moins. Après, comme je le dis précédemment, je me suis remis à regarder les vidéos ASMR câline. Mes pensées à Vivi ou Skitty a tendance à davantage me maintenir éveillé, parce qu'elles sont probablement bien plus intéressantes que mon lit vide. Et donc, je ne rêve donc presque jamais de femmes comme avant le confinement. Donc, je dirais que j'ai presque arrêté de rêver depuis le confinement. Y compris le jour où j'ai du mal à rêvasser pour me défouler.
Alors, mes rêves, ils n'ont pas vraiment changé, dans le sens où je m'en souviens toujours pas. Je sais que je rêve, je sais au réveil que j'ai rêvé et qu'il s'évapore aussi vite que ma tête commence à mouliner. Voilà.
Si j'ai noté une différence dans mes rêves par rapport à mes rêves depuis le confinement, ben oui, je remarque que j'ai une activité onirique beaucoup plus importante. Je rêve beaucoup plus, c'est beaucoup plus intense, ça me réveille, mes rêves me réveillent, je m'en souviens. Alors que c'est quelque chose qui n'est pas forcément systématique, mais là, je m'en souviens à chaque fois. Donc je suis dans une production très importante. Et comme les rêves sont pour moi de précieux messages, c'est une joie et un plaisir chaque matin de recueillir tout ça, même si c'est jamais des choses fort agréables qu'on peut attraper de soi-même. Et voilà. Donc ouais, je note vraiment cette activité, une grosse activité de rêve en ce moment pendant le confinement. Mais ce sont pas des rêves liés au confinement, ce sont des rêves qui liés à moi. C'est des rêves qui sont très symboliques pour moi et qui sont pas nouveaux. Après, il y a l'apparition de plein d'amis, beaucoup d'amis et de gens que j'ai pas le temps d'appeler et qui sont là. Bon, je pense que peut-être ça change. Voilà. En tout cas, j'ai pas trouvé de rêve à vous partager parce que pour l'instant, c'est comme je vous disais des précieux messages et que je partage dans mon cahier. Voilà.
J'ai fait un rêve assez absurde, un peu dans le genre des rêves qu'on peut faire quand on est petit. Enfin, moi, j'en ai fait quelques fois, je m'en rappelle, c'était assez traumatisant. On est à l'école et puis on se rend compte qu'on est en culotte ou un truc dans le genre. Et ben là, j'étais dehors. J'avais pas d'attestation sur moi, je me rendais compte que j'avais oublié de remplir ce bout de papier là. Et du coup j'étais un peu inquiète parce que je me disais que j'allais peut-être me prendre une prune parce que je voyais pas mal de flics autour de moi, sauf que il y avait une foule pas possible dans la rue. Et donc c'était absurde puisque cette histoire d'attestation c'est pour le confinement, donc en théorie il n'y a pas grand monde dans la rue, mais bon là il y avait plein de monde, des flics, mais j'arrivais à passer entre les gouttes et voilà, c'était vraiment bizarre comme rêve. Mais à part ça, j'ai pas fait de rêve qui sur ce genre de, enfin, avec le thème, on va dire, du confinement. Mais par contre, juste une impression bizarre au début, quand tout ça a commencé, un truc un peu étrange en se réveillant le matin, une sensation de pas trop de pas trop savoir si c'était la réalité ou le rêve. La situation était vraiment bizarre et le cerveau avait besoin d'un moment pour se dire que c'était bien la réalité. Après, ça a disparu et c'est revenu il y a quelques jours. Et puis là, ça a redisparu. Voilà. Et ben, sur ce, bonne journée.
Vous êtes sur l'émission. Émission faite par des handicapés psychiques.
Mais alors, la boîte à édition, c'est le truc qu'on fait avec Nicolas Tilly.
Ah, d'accord.
Le truc direct.
Ah, non, c'est toujours l'émission.
Oui, c'est toujours l'émission.
D'accord.
N'ayez pas peur de la maladie mentale, vous êtes déjà malade.
La TDK Corporation et la société Hachette sont heureuses de vous présenter l'extrait de sa série Aventures et exploits de nos amis évêques, Jean-Pi et le bébé singe.
Bien, on vient d'entendre là à l'instant le générique de départ donc, d'un épisode présenté par Rodolphe Orville. Il va nous raconter tout de suite, je vais le laisser se présenter, d'où vient cette création assez originale.
Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Rodolphe, j'ai 58 ans. Et ce projet, Jean-Pierre le bébé singe, remonte à plusieurs années déjà, avait été prévu dans le cadre d'un cadeau pour une petite fille. Bon, cette dernière, malheureusement, a grandi, s'est désintéressée du projet. Elle m'avait demandé, en fait, ce qu'elle voulait faire. Elle voulait être marchande de jouets quand elle serait plus grande. Et il se trouve qu'il y a une marchande de jouets dans l'histoire. Donc, je lui avais donné ce rôle.
Alors d'où vient cette idée originale?
Eh bien, en fait, j'ai lu le texte en illustrant ça et là par des musiques empruntées à divers styles, puisque ça va depuis la musique folklorique jusqu'à la musique électroacoustique de Jean-Michel Jarre, en passant par le jazz, la pop, la variété.
Il faut savoir donc que vous avez décidé de raconter cette histoire, ce texte donc qui est un texte original, enfin d'un auteur Claude Morand, comme vous allez nous l'expliquer là, mais donc c'est un texte déjà écrit, mais que vous avez mis en musique à travers
que j'ai illustré à travers des musiques prises ça et là sur divers 33 tours.
Hein. Et ça uniquement avec donc un poste cassette et votre voix et un tour de disque pour pouvoir envoyer les musiques.
Exactement.
D'où vous le verrez, mais peut-être vous allez le préciser. Ce son, quand on l'écoute, il a quand même une coloration particulière.
Oui, outre le fait que c'est du mono, on entend souvent un claquement qui prouve qu'il s'agit d'un enregistrement artisanal.
Voilà, c'est ça. La particularité donc de cet enregistrement, c'est qu'il est totalement artisanal, réalisé du début à la fin avec cette, comme vous avez dit, ce claquement qu'on entend, qui est très régulier et que dans une opération esthétique, on s'est dit que c'était intéressant de la garder. Ça donnait une couleur à votre module sonore. Et donc l'idée, voilà, j'en dis un petit peu, mais le projet, vous avez toqué à la porte de Micro-Sillon pour, à partir de cet enregistrement audio qui fait quand même presque 2h30, si je me trompe.
Exactement.
Donc, quelle est l'idée, Rodolphe?
Eh bien, il s'agit simplement d'ouvrir la porte du rêve et de l'aventure aux enfants qui nous écouteront, enfin, des enfants et des plus grands, parce qu'il y a quand même des adultes qui ont quand même conservé encore une âme de gosse. Hein.
On l'espère. Et donc, quand est-ce qu'on pourra écouter ça ?
Eh bien, normalement, le plus tôt possible, dans un mois peut-être, si tout... Si mon ami et moi, nous parvenons à nous dépatouiller de tous les détails techniques.
Effectivement, on est sur la fin de la réalisation de ce module sonore, mais on avait à cœur donc de partager à tout le monde l'idée que donc on va retrouver 26 épisodes de 5-6 minutes, donc ce qui nous tiendra en haleine pendant presque plus de 2 années.
Ben oui, espérons que nous aurons des écouteurs assez fidèles.
Dites-nous le titre de cette aventure et l'original, le texte, et par qui ça a été écrit, s'il vous plaît.
Eh bien, le titre original, c'est tout simplement « Jean-Pi et le bébé singe », extrait de la série « Aventures et exploits de nos amis les bêtes ».« Jean-Pi et le bébé singe » a été écrit en 1963 par Denise Moisan, dite Claude Moiran.
Très bien. Eh bien, sur ce, on va se laisser et on se donne encore un mois de travail pour arriver à conclure ces épisodes.
D'accord.
Au revoir.
À bientôt.
Bouchy bouchy, le mission microcillon.
Mon fillon.
Microcillon.
Transformé en Zelda. Oh, purée de f***ing électricité. Mais c'est pas possible, y'a un problème ou quoi? Ok, j'ai des pics de saturation lorsque je suis électrocuté. C'est bon à savoir.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 32.
Vincent.
C'est parti, donc nous voici dans la soirée de fin du Groland édition 8. 8, voilà. Et on est en 2019, mais c'est l'édition 8. Voilà, avec les Monty Python qui se sont produits sur scène. Maintenant, il y a les Tagada Jones. Ça. Voilà, donc je vais laisser se présenter.
Donc moi, c'est Nico et je suis un des deux batteurs du groupe. Voilà.
Et moi, c'est Kineuil, je suis un des deux trombonistes du groupe. Parce qu'on a tout en double, en fait. Et juste pour faire une petite précision, c'est Monty Picon. Et pas Monty Python, voilà.
Pardon, Monty voilà, Python, voilà. J'ai mal lu. Voilà. Voilà, et ça m'a fait penser au film, c'est bah, pour ça que... Bah, voilà. Oui. Et là, Picon, c'est sûrement par rapport à la boisson.
Certainement, certainement, oui, oui.
Aucun lien physique. Hein.
Donc, que pouvez-vous nous dire sur votre groupe qui est plutôt punk rock, musette, enfin, où il y a de la musique, comment dire, comment le décrire?
Bon, là, nous, on le décrit comme étant du rock cuivré, donc sous forme de fanfare, on va dire, parce qu'on est tous debout, deux batteurs, il y a 4 cuivres, un banjo. Donc, par rapport à l'image, on est plutôt une fanfare, mais c'est un groupe de rock cuivré, c'est-à-dire qu'on fait du rock avec des grosses guitares, basses, voilà, et des cuivres, du coup, voilà. Et puis, puis et un banjo, oui, voilà, mais je veux dire pour les cuivres. Et puis ouais, c'est plutôt dans cet esprit là on a un petit côté, on joue du rock, du punk, on joue aussi des musiques balkaniques, on joue des musiques colorées un petit peu, donc voilà, on a un petit métissage de musique. Voilà.
Vos références musicales et cinématographiques, c'est peut-être par rapport à Monty Python, Monty Picon. Est-ce qu'il y a un lien
Monty Python, d'abord, c'est pas qu'un film, c'est aussi une troupe de qui, enfin, c'est comment, une troupe d'humoristes qui a été, enfin, qui est des années 60 en Angleterre, et ils ont quand même fait un paquet de sketchs, un paquet de films, et puis nous, on s'inspire évidemment de leur humour, mais bon, voilà, ça a été, on a été bercé par ça, comme beaucoup de gens de notre âge. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire, Monty Picon. C'était quoi ta question déjà? Parce que du coup, moi, je me
vous inspirez de quel Vous êtes issu de quelle mouvance
Mais ouais, oui, musicalement, bah écoute, on nous lit souvent à la Mano Negra, les Négresses Vertes, Noir Désir, on a tout ça un petit peu. Après, nous, on a chacun des influences un peu différentes, mais voilà, on peut se dire que c'est du rock indépendant,
des alternatifs. En fait, c'est du rock désalternatif, et pour les influences, moi, personnellement, je rajouterais un petit Raoul Petit, parce que tant qu'on est dans le Sud, on en profite. Ah,
oui. Et par rapport au Sud, vous m'avez dit juste avant l'interview que vous connaissiez les Brassens Nordead.
Carrément.
C'est un petit clin d'œil à eux.
Bah carrément, c'est des bons copains. On les a rencontrés il y a paire d'années quand même, il y a bien 10 ans, une bonne dizaine d'années. On a joué avec eux plusieurs fois et puis à chaque fois, on a fini par dormir chez l'un ou l'autre parce que c'était plus simple que de trouver un hôtel, tout ça. Donc on a créé des liens. Et d'ailleurs, ils sont là ce soir.
Erwin, j'ai vu.
Ils sont plusieurs être là. Ils ont joué hier, là, pour le Fifi Gros, je crois. Et je sais plus où. Mais du coup, ils sont venus nous voir, là, parce qu'ils savaient qu'on était là.
Avec l'Embuscade aussi, le nouveau groupe qu'ils ont créé à deux.
C'est ça, ouais.
L'Embuscade Masterpile.
C'est ça, ouais. Et que je connais pas encore, ce groupe-là.
Et il y avait les Kurtz aussi, que vous devez connaître. Les Kurtz, non? Ça vous dit rien? C'est un groupe aussi de punk rock de la scène locale toulousaine. D'accord. Que j'ai rencontré moi plus récemment que les Brassens. Ouais. Voilà, donc pour revenir à la musique, qu'est-ce qui vous plaît dans la musique? Comment vous êtes venu à ça? L'historique un peu, la genèse.
Alors déjà, le groupe, il existe depuis 2006. Donc juin 2006. Le groupe depuis a changé, hein, le personnel n'est plus vraiment le même. On est dans cette formule, on va dire, dans cette même forme depuis 2008. On s'est tous rencontrés plus ou moins à Rennes. On se connaissait déjà un petit peu tous parce que le milieu rennais, nous on vient de Rennes, donc en Bretagne, le milieu rennais et breton, et comme on se connaît tous, on est tous une grande famille. Donc on se connaissait déjà tous, et puis voilà, on en est venu à parler de faire un groupe, et puis au fur et à mesure on a ramené des gens, et puis voilà, on en est arrivé là, et puis ça marche très bien.
C'est un parti pris que de faire essentiellement de la musique, un peu de chant, de ce que j'ai pu entendre. Vous avez du chant, mais c'est surtout, c'est très pris par la musique, et on entend peu le chant.
Ouais, alors ça c'est pas... Il y a pas mal de morceaux instrumentaux. Alors il y a pas mal de morceaux instrumentaux, mais il y a quand même beaucoup de morceaux chant, et ça prend... Ouais, voilà, puis il y a quatre chanteurs qui se relaient, enfin trois chanteurs plus des chœurs qui se relaient. Donc non, il y a quand même une part belle au chant, mais aussi, puisqu'on a des cuivres, un banjo, des guitares, on a un côté orchestral qui est aussi très présent. Donc voilà, mais non, il y a quand même pas mal de... Et c'est de plus en plus de chants en français, plus ou moins revendicatifs, mais voilà.
Donc, mieux, c'est mieux que les musiques anglaises, moi je trouve. La francophonie se perd, donc c'est important de la faire perdurer,
ouais.
pour pas qu'elle se perde. Donc oui, c'est engagé, et engagé comment plutôt, quel type, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, quel genre de phrases, de titres que vous pouvez faire?
Disons qu'on se sent très à l'aise au festival du film de Groland, par exemple, ce genre
décalé, dérisoire, enfin où il y a de l'autodérision, je veux dire.
Tout à fait, ouais, c'est ça, le côté décalé, et puis comment dire, ouais, les gens de Groland nous inspirent d'une certaine façon aussi, depuis des années et des années, on a tous regardé les émissions, voilà, et puis... Et on a eu la chance aussi de rencontrer quelques-uns sur la route, quoi. On a rencontré notre président il y a une petite dizaine d'années maintenant, enfin un petit peu moins. Donc il est toujours dans nos cœurs avec nous, surtout aujourd'hui qu'on est là au festival du film Grolandais à Toulouse.
Mais par rapport à ça, quelque chose à dire en hommage à Christophe Salengro, où à l'époque le Groland était quand même plus jovial, ça a perdu un peu de sa gaieté, je trouve. Enfin, vous venez occasionnellement. Moi qui suis plus régulièrement le Groland, je trouve, enfin, qui suis chaque année le festival,
Festival.
voilà, le festival, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Voilà.
Alors, nous, le festival, c'est notre première édition. On n'y est jamais venu, on n'a jamais vu. Donc, on connaît que le Groland de la télé et puis du fait qu'on se soit croisés de temps en temps du festival de Quin. Donc, c'était plutôt en Normandie à l'époque. Mais là-dessus, on ne peut pas dire grand-chose. Hein, on n'a pas de comparaison. Mais là, on s'est super bien marré, en tout cas, nous. Dictateur, Michael Cull, ils ont été vraiment extrêmement sympas, franchement.
Ils ont joué le jeu par rapport à notre introduction.
Ils ont bien joué le jeu et c'était vraiment super. Donc,
Oui, ils vous ont mis en valeur, vous étiez le premier groupe, donc ils étaient assez jovial, par rapport à ça. Mais moi, je dis dans sa globalité, je parle pas de... Voilà, vous savez pas, ouais.
On n'a pas de comparaison, non. D'accord. On n'a pas vu, on est arrivé aujourd'hui, en plus, donc...
Mais par rapport au festival que vous avez pu connaître à l'époque, la genèse du Fifiro, comment c'était par rapport à...
C'était pas... nous, quand on s'est rencontrés, c'était pas le Fifiro, parce que c'était
l'inauguration d'un cinéma... du côté de Caen, Louvigny. Et en fait, ils ont jumelé Louvigny, donc la ville en Normandie, avec le Groland pour ouvrir ce cinéma qui allait passer pas mal de films indépendants et des trucs qui ressemblent à Groland, quoi. Et donc, on était là par chance, finalement, parce qu'on jouait la veille juste à côté. Et on s'est retrouvés, finalement, à faire l'animation. Il y avait un tournoi de foot en même temps, et puis il y a des discours de notre président, accompagnés par les producteurs de porc, c'est ça, hein?
Les
producteurs de porc.
Ils sont venus à Toulouse, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais pas.
Et du coup, on a vachement sympathisé à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était pas au sein même du festival de Groland, quoi. C'était un coup de peau.
Et par rapport aux personnalités du Groland, Noël Godin, par exemple, vous connaissiez, vous l'aviez rencontré, l'Antarteur?
Là, on l'a croisé tout à l'heure, vite fait, mais on ne l'avait jamais rencontré avant. Et c'est un réel plaisir de croiser tous ces gens qui nous ont vachement inspirés dans la vie de tous les jours, faut dire. Pour le côté décalé, un petit peu insoumis, c'est ça ce qu'on cherche aussi à montrer, si je ne m'abuse. Je ne m'abuse point. Tu m'en serais gré, Nicolas.
Mais juste par rapport au côté insoumis, pour finir sur une note d'actualité avec les Gilets jaunes, que pouvez-vous dire sur cela?
Après, ça va être un peu démago, mais bon, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est important de... quand tu vois le gouvernement et là où on en est, alors c'est surtout qu'aujourd'hui, on a quand même des priorités. Les priorités du gouvernement ne sont pas les mêmes que nous, hein, on est d'accord, sur l'environnement, il y a un réchauffement climatique, il y a des choses qui ne sont quand même pas les priorités du gouvernement, et c'est là qu'il y a un petit problème. Alors, les Gilets jaunes descendent aussi pour pouvoir d'achat, pour des choses plus, on va dire, un peu plus de justice sociale, et je pense que c'est important à un moment donné de pouvoir descendre dans la rue. Est-ce que ça va changer les choses? J'espère, mais en tout cas, on est tous dans le même état d'esprit aujourd'hui, quoi. On se bat chacun avec ses propres moyens. Nous, on est engagés dans nos textes. On a des engagements personnels, mais on descend pas tous dans les manifs, mais en tout cas on soutient quand même les gens qui se lèvent contre le gouvernement, qui est quand même qui est pourri puis on se demande pourquoi et comment ça se fait qu'il y a encore des gouvernements aussi pourris à la tête des États, que ce soit le nôtre ou d'autres, mais voilà, je comprends pas, toujours pas. Voilà.
Mais merci de votre participation. Si vous avez quelque chose à rajouter, un site, des actualités à dire pour novembre, décembre, par rapport au groupe tout simplement, un site ou un Facebook ou autre.
Alors il faut pas hésiter à aller. Donc on a une chaîne YouTube. J'ai pas l'adresse là, mais en tapant mon Tipeee sur YouTube, on trouve. Il y a une chaîne YouTube, il y a un Facebook bien sûr et un site internet qui est mis à jour régulièrement. Donc vous pouvez trouver toutes les dates de mon Tipeee. Là on est actuellement en train de préparer la tournée de 2020 qui s'annonce plutôt sympatoche. Donc voilà. On sera peut-être amené à revenir en espérant que ça se fasse. Et puis, on se reverra bientôt. Et
pour la tournée 2020, si vous avez déjà une ou deux dates que vous pouvez annoncer, non, c'est encore secret. D'accord, ça marche. Mais bonne continuation et au plaisir de se revoir, peut-être à Toulouse ou à Rennes. Ça fait loin, mais pourquoi pas.
Carrément, pourquoi pas.
Voilà. Avec plaisir et puis merci.
De rien, au revoir.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial, voilà, reportage 31.
Vincent,
juste même partager un même rôle. 35%, un tiers des Français qui indiquent être gênés à l'idée de partager un rôle. Qu'une personne atteinte de maladie mentale.
bonjour à tous, bonjour chers auditeurs et bonjour Philippe Charc.
Bonjour cher éditeur.
Alors votre chronique de l'individuel au collectif était passée à l'émission du mois de décembre. Et là, on a la chance d'avoir votre épisode numéro 2. La dernière émission du mois de décembre, c'était Histoire d'une vie. Et puis là, vous allez nous parler des personnes exclues, c'est bien ça ?
Oui, bien ça. Les personnes exclues. Dans les années 1980, j'étais chômeur de longue durée habitant une ville comme Paris et j'avais des difficultés à réaliser les causes de cet état de choses. J'étais en situation de handicap psychologique. Ma mère était ma curatrice et cela a été déclaré à l'administration depuis 1981 auprès du juge des tutelles à la mairie du 5e arrondissement à Paris. De ce fait, je suis bien loin d'être le seul à être dans cette situation bien différente de celle des autres. En l'occurrence, je me suis trouvé parmi les exclus, rejeté par la société. Mon cas était spécial. Cela est lié aux suites d'une enfance difficile, donc j'avais du mal à réaliser les causes. Le fait d'habiter Paris, la capitale où il y ait le plus de possibilités de trouver du travail, vu la situation à laquelle je me suis trouvé, la pilule a été amère à avaler. Il aurait été plus facile de me résigner si je devais habiter une ville comme Lyon ou Toulouse, car ce sont des villes plus petites qu'une ville comme Paris, vu l'importance de l'agglomération. Et finalement, j'ai trouvé un travail au commissariat de la marine en septembre 1992. Mon sentiment pendant ces 10 ans de chômage, c'était très difficile à accepter. Je me sentais jugé vu à l'égard des autres. J'avais du mal à réaliser la situation des personnes exclues. Quand je parle des personnes exclues, j'entends des sans domicile fixe et des individus en situation de handicap ou des personnes qui cumulent des années de chômage.
Merci pour ce témoignage très intime et très intéressant. On parle justement de la difficulté à être écarté du marché de l'emploi. Oui. Et vous dites que c'était plus difficile à vivre finalement dans une ville comme Paris plutôt qu'une ville comme Toulouse ou Lyon, vous dites.
Parce qu'habitant une ville comme Toulouse et Lyon, j'aurais peut-être fait plus attention pour ne pas perdre mon emploi, comme ça a été le cas en 1981.
D'accord.
T'as raison. Et je n'aurais pas pensé que ça pouvait être aussi difficile dans une ville de province, compte tenu qu'il y avait tellement de possibilités, c'est la capitale à l'époque, trouver un job.
Alors dans votre parcours, vous nous parlez à la fois de la reconnaissance de la situation de handicap, mais aussi de votre période de chômage. Et puis, ces deux choses-là sont liées à l'exclusion. Et moi, ma question, ce serait, sans faire une échelle de valeur, c'est à partir de quel moment que vous avez pris conscience, là, je suis une personne exclue. Est-ce que ça a été la reconnaissance de situation de handicap ou est-ce que ça a été plus une fois que vous avez été au chômage ?
C'est une fois que j'étais au chômage que ça a pris.
D'accord. Avant ça, vous n'aviez pas ce sentiment.
Non, on n'était pas arrivé là, auparavant.
Merci beaucoup pour tout ça. Et puis, je pense que votre prochaine chronique, ce sera sur les inégalités cette fois-ci, c'est bien ça ?
Ça sera pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir écouté.
Vous retrouvez chaque mois l'émission de radio.
Non, merci.
Non ? Pourquoi ?
Vous êtes vous, quoi ?
Les interviews diverses et variées.
de l'envoyé spatial. Voilà, reportage 32.
Vincent.
Bonjour, nous sommes à la représentation des chiens guides d'aveugles et pour la remise de diplômes. Et aujourd'hui, j'accueille le président. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour.
Alors, quoi consiste cette journée, monsieur ?
Eh bien, c'est une journée qui suit l'Assemblée générale annuelle.
Oui.
Et à l'issue de cette assemblée, nous rassemblons toutes les familles d'accueil traditionnelles, les familles relais, les déficients visuels, ainsi que les permanents, de façon à partager un repas convivial.
Depuis quand faites-vous ça et comment vous est venue l'opportunité, l'idée de créer ce moment ?
Ben, je crois que ça s'est toujours fait. Moi, je suis en fonction depuis 5 ans. Antérieurement, il y avait des méchouis. Et puis, compte tenu de la complexité de pouvoir faire des méchouis, actuellement, aujourd'hui, nous sommes 165 invités. Donc, ça ferait quand même beaucoup de mise en œuvre et avec des risques de ne pas pouvoir contenter tout le monde. Alors, nous avons mis cette année la paella et la fideua. Voilà.
Et c'est plus facile. On a l'odeur à côté.
L'odeur à côté, c'est plus facile à sans doute fabriquer et à servir.
Vous êtes président depuis 5 ans, donc, et comment vous est venue l'envie et l'opportunité d'être dans le milieu des chiens guides d'aveugles ?
Non, j'y suis rentré par accident, dans le sens où un confrère et ami qui était trésorier de l'école m'a demandé de le remplacer pendant un certain temps, comme on avait la même formation, ce que j'ai fait. Et ensuite, on m'a intégré au conseil d'administration en 2015 et j'ai été élu comme président, enfin depuis 2015. Je suis au conseil d'administration depuis 2012-2013. Voilà.
Vous n'aviez pas forcément la passion des chiens.
J'ai eu des chiens et j'en ai encore, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que je n'étais pas dans une association. J'avais d'autres objectifs, ne serait-ce que familiaux, à travers des problèmes de handicap. Mais étant donné qu'on m'a fait rentrer dans cette association et que j'ai trouvé qu'elle était extrêmement intéressante et enrichissante, que j'y suis rentré.
Quels sont les partenaires, les soutiens qui vous permettent de fonctionner ?
Les premiers soutiens, ce sont les donateurs. Les donateurs qui répondent à notre demande. Et ensuite, nous avons bien entendu les collectivités. J'ajouterai à titre égal à la fois la mairie, la métropole, qui met à notre disposition l'ensemble des bâtiments. Et que nous aménageons, bien entendu. C'était une ancienne ferme. Et puis, nous avons le conseil départemental qui nous accorde des subventions chaque année pour le financement d'éducation de chiens.
Vous avez la famille relais et la famille d'accueil. Quelle est la différence pour les gens qui ne connaîtraient pas ce distinguo ?
La famille d'accueil est une famille qui va recevoir un chien. Ils sont au nombre de 42. Donc, ils sont d'ores et déjà prêts à recevoir un chien. Quant aux familles relais, ça peut être soit des familles d'accueil qui prennent un peu de recul parce qu'ils ont eu 2, 3, 4 chiens. Soit c'est des familles que l'on a sélectionnées pour la qualité de vie qu'ils peuvent offrir aux chiens et qui permettent à ce moment-là de suppléer les familles d'accueil lorsque celles-ci partent en congé, ont un événement familial, etc. Donc elles sont là pour nous remplacer les familles d'accueil éventuellement.
Mais merci. Si vous voulez rajouter quelque chose, un site internet, un événement, il y a les 1000 pommes ou je ne sais plus combien exactement.
Il y a 2 événements qui sont récurrents. Il y a la journée porte ouverte. C'est le dernier dimanche de septembre et l'école est donc ouverte toute l'après-midi du dimanche où des manifestations se produisent, notamment en matière de démonstration des chiens, des ateliers et des partenaires qui viennent aussi tenir des stands. Ensuite, nous avons les 30 000 pommes qui sont l'émanation du Lions Club qui organise des ventes de pommes dans les grandes surfaces et dont le produit de ces ventes nous est remis. Voilà. Et ça, c'est devenu une tradition.
Et il y a aussi le rassemblement Place du Capitole, où vous faites découvrir aux gens l'association, plus ou moins.
Oui, c'est pour Noël, on a différentes manifestations Place du Capitole. Mais celle qui est récurrente, c'est celle une fois par an pour Noël, où on a, la mairie met gracieusement à notre disposition une baraque, enfin je ne sais pas comment on appelle.
Une tente.
Un
barnum.
Un chalet, et donc pendant la semaine, on se présente avec d'autres associations pour faire connaître le chien guide. Voilà.
D'accord. Mais bonne continuation et au plaisir, peut-être de vous revoir à Micro-Sillon si vous venez découvrir.
Pas de problème. Quand vous nous inviterez, on viendra. Il n'y a pas de problème. Okay. À bientôt. Au revoir.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 32.
Vincent.
Micro-Sillon.
micro-alternative possible.
Micro-sien.
Home is where it hurts, comme dit l'adorable Camille. Mais sortons du trou à musique, c'est l'heure de Néophile au Moé. Épisode Buzoga, Mono Amori et éloignement de Dieu. À l'épisode précédent, j'ai parlé du sombre règne des objets tyrans qui nous agressent chaque jour pour conditionner en nous l'acceptation de la suprématie du système et du dieu argent. Les humains ne sont pas dans une bien meilleure situation que les objets, dans la maison ou autre part. La Mono Amori, aimer un et un seul être, est une erreur et horreur gigantesque perpétuée par les normes de la société et les apôtres du dieu argent. Prenons une personne au hasard, de préférence un ami lointain ou une simple connaissance, pour ne pas avoir l'air d'être quelqu'un qui essaie de vous manipuler émotionnellement. Selon la loi de Dieu, cette personne est une partie de Dieu, et donc hérite de tous ses attributs. Il y en a un nombre infini, mais n'en exprime qu'une partie, toujours infini. Selon le dogme monogame de la société, cette personne est censée trouver son alter ego, incarnation de tous les attributs que cette personne a, mais n'a pas encore découvert en lui, entre parenthèses une autre infinité. Cet alter ego peut se trouver n'importe où la substance se trouve, donc la distance théorique de ces deux êtres tend vers l'infini. Et selon le culte de l'âge, perpétré par les Argéniums, ces deux personnes ont un temps fini pour se trouver. Il ne faut pas un statisticien très compétent pour se rendre compte que la probabilité de cette occurrence tend tellement vers zéro que si on l'utilisait comme corde à linge, elle contiendrait récursivement l'idée même de vêtements. En clair, c'est juste de l'excrément de taureau, comme on dit chez nos amis anglais. Le pire est que la société, qui n'aime pas l'échec, va influer sur cette personne et son être aimé pour qu'ils, entre guillemets, s'accordent mieux ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont se déformer pour mieux s'assembler. Non seulement ces efforts sont vains, mais en plus, ils sont destructeurs. En tentant de devenir quelque chose qui ne sont pas eux, ils vont renier une partie de leurs attributs, attributs qu'ils ont pourtant hérités de Dieu. Ils vont donc s'éloigner de Dieu et de leur propre forme, c'est le principal reproche que les fées nous font. Cela met une pression énorme sur le dos de ces personnes, psychologiquement ça éteint de plus en plus leur raison, qui ne trouvera plus d'échappatoire à ce harcèlement continuel des entre guillemets agents sociaux, et les amène aussi naturellement à haïr cet être qui les déforme en échange d'un amour de plus en plus superficiel et simulé. Au niveau physique, il n'y a plus grand chose à dire. Mourir de vieillesse n'est plus la manière par défaut de mourir. Les corps des gens se déchirent, les codes génétiques se déforment, le cancer est presque devenu une fatalité, l'hypertension, l'infarctus et l'AVC des maux communs, et Alzheimer accompagne le délitement des sens de la vie. Je ne vous dirai pas pourquoi la substance replace ces pauvres gens dans le cycle des réincarnations, mais ce n'est pas par animosité et plus comme un rappel à l'ordre, car la substance aime être elle-même. On en arrive à nouveau à la substance. On a enfin fini de délimiter l'ennemi, le système, la société Argénium. Désormais, il est temps de commencer le combat, ou plutôt le finir, vu que l'on veut passer du monde de confort ennuyeux au monde d'amour, où toute vérité sera à nouveau bonne à dire, enfin, on le fera le mois prochain, après cette chanson pleine d'espoir, Aime-moi, d'Ibrahim.
Mais aime-moi comme tu sais aimer, mais aime-moi sans compter, je veux juste parler, croire et te faire rêver. Notre amour résistera à ceux qui critiquent nos nombreux choix, le malheur et l'ennui seront éliminés, le désir de la vie sera notre abri, amour, mon âme est déjà conquis. Amour, je te promets une belle vie, amour, je t'écrirai toujours, amour, j'y veillerai toujours, aime-moi pour ce qui est, aime-moi à tout jamais, c'est peut-être pour ça que l'on est fait. Un amour d'éternité, mais aime-moi, je t'en supplie, mais aime-moi car je m'oublie, mais aime-moi, c'est ainsi, quand j'écris ceci, je ris mon ami. Je te promets de t'expliquer mes rêves les plus secrets. m'envolerai pour retrouver la liberté de vivre, la liberté de dire tous ces mots-là qui riment dans les si. Dans l'amour, il n'y a pas de peine. Dans l'amour, il n'y a pas de haine. Et c'est ainsi que va ma vie. Et c'est une longue histoire dans laquelle je m'oublie. C'est un rêve dérisoire que je dicte à ta vie. Je chante pour toi, tu te retrouveras à chaque fois. Je chante pour toi, tu te retrouveras à chaque fois. Mon amour, aime-moi. Mon amour, aime-moi. Mon amour, aime-moi.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.